Bonjour Laurent Saint-Martin.
Bonjour Frédéric Rivière.
Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Strasbourg pour la journée de l'Europe et ensuite à Berlin pour y rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz. Son deuxième quinquennat européen va donc commencer. Va-t-il, selon vous, lancer le chantier d'une réforme de l'Union européenne ?
Il va d'abord poursuivre ce qui est absolument nécessaire pour l'Europe, à savoir une Europe plus souveraine. Et ce n'est pas anodin si son premier déplacement, en tant que président réélu, est avec le chancelier allemand Olaf Scholz.
Parce que tous les présidents l'ont fait.
Oui, mais dans un contexte...
Pas avec Olaf Scholz, mais enfin avec le chancelier allemand.
Oui, mais dans un contexte particulièrement pertinent. Ouais. Nous avons besoin de parler de l'avenir de l'Europe et de sa souveraineté sur deux grands chantiers majeurs, la défense et l'énergie, qui sont évidemment en lien avec le contexte de la guerre en Ukraine. Donc, il faut d'abord se féliciter d'avoir un couple franco-allemand solide, leader en Europe. L'Allemagne, qui prépare le sommet du G7 en juin, a aussi un agenda et un ordre du jour extrêmement important à préparer, pendant que la France termine sa présidence du Conseil jusqu'au 30 juin. Donc, vous voyez que nous sommes sur une séquence de 2 mois qui s'ouvre, extrêmement important pour l'avenir de l'Europe, où des décisions majeures devront être prises.
Emmanuel Macron se rend à Strasbourg, officiellement, pour clore la conférence sur l'avenir de l'Europe, lancée en 2019. C'est une initiative qui a mêlé des consultations citoyennes dans les 27 États membres et des travaux d'experts et d'élus et qui a abouti à l'élaboration de 49 propositions qui seront donc présentées aujourd'hui. Est-ce que ce travail peut être le prélude à une convention européenne ? On s'interroge beaucoup sur ce scénario. Une convention européenne donc en vue de la rédaction d'un nouveau traité européen ?
En tout cas, les Européens et les Français a fortiori ont réalisé pendant ces dernières années, d'abord face à la crise Covid et puis face à la guerre en Ukraine, à quel point l'Europe les protégeait. Et je crois que les propositions qui vont sortir de cette conférence sur l'avenir de l'Europe vont le démontrer. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous sentir mieux protégés en Europe. Et surtout, je crois que la qualité de la construction européenne comme projet politique pour nos concitoyens a été démontrée. Il y a quelque chose de très saisissant avec l'Europe. C'est que c'est toujours au lendemain des crises que l'on se rend compte à quel point l'Europe est importante. Et je crois que beaucoup de Français l'ont compris. D'ailleurs, pendant l'élection présidentielle, plus personne ne parlait de sortir de l'Europe, alors qu'il y a encore 2 ans, c'était un mantra de beaucoup de candidats. Et donc, finalement, on réalise dans cette période à quel point Emmanuel Macron avait raison avant tout le monde, et qu'en digne héritier des constructeurs et des bâtisseurs de l'Europe, nous avons fait non seulement de notre continent une puissance politique, une puissance économique, mais que demain, ce sera la seule condition pour faire de l'avenir de nos concitoyens un avenir de prospérité et de sécurité.
Quand vous dites que les Européens, et notamment les Français, ont compris avec la crise du Covid et avec la guerre en Ukraine combien l'Europe les protégeait. Sur le Covid, j'imagine que vous faites allusion au vaccin et au système d'achat groupé.
Pas que, aussi à la protection économique.
Mais sur l'Ukraine, sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine, en quoi l'Europe protège-t-elle les citoyens européens et de quoi les protège-t-elle ?
Mais précisément en renforçant notre capacité à réfléchir ensemble à une Europe plus souveraine sur les enjeux de la défense, ça c'est ce qu'on appelle un peu le hard power, mais aussi sur des enjeux économiques indirectement comme l'énergie. Et donc ce que vous permettez aujourd'hui à nos concitoyens français comme le fait de bénéficier de blocages des prix sur le gaz et sur l'électricité, c'est une décision nationale. Demain peut-être cela doit faire l'objet d'une réflexion plus européenne. Et puis la réponse face à l'invasion russe ne peut être durablement qu'européenne. Et donc vous voyez bien qu'un pays comme la France, un pays comme l'Allemagne ne peut avoir de réponse seule face à ces grands enjeux géopolitiques et à cet ordre mondial qui évolue. Et donc il faut absolument que la réponse demain soit européenne. Mais sur la crise Covid, évidemment la vaccination, nous la devons à l'Europe. Mais nous devons aussi...
Nous la devons surtout aux laboratoires qui ont inventé les vaccins.
Oui, mais la France n'aurait pas pu vacciner aussi rapidement sa population s'il n'y avait pas eu effectivement cette mutualisation. Et nous le devons aussi au grand plan de relance de 750 milliards d'euros qui a été pour la première fois émis par de l'endettement collectif. Et c'est cela qui a permis à nos entreprises notamment d'être sauvées, non seulement de ne pas détruire d'emplois, mais même d'en créer.
Est-ce que vous croyez que la guerre en Ukraine est en train de transformer l'Union européenne en profondeur ?
En tout cas, elle la renforce. Et ce qui est sûr, c'est que nous voyons bien que le pire, l'horreur, c'est-à-dire l'affrontement physique, l'agression guerrière sur les terres européennes, est de nouveau possible, ce que je crois beaucoup d'entre nous avions oublié ou avions considéré comme ne pouvant plus arriver. Et donc effectivement, aux portes de l'Union européenne, sur la terre européenne, effectivement, la guerre est aujourd'hui réelle. Et donc oui, cela effectivement renforce notre sentiment que, ensemble, Européens, nous sommes plus forts. unis dans la diversité, c'est la devise de l'Union.
Pourquoi Emmanuel Macron ne s'est-il pas encore rendu en Ukraine alors que tant de chefs d'État y sont allés depuis 2 mois ?
D'abord, Emmanuel Macron y est allé à la veille du conflit. Mmh. Il a été le leader des pourparlers pour l'Europe et au-delà. Nous savons aujourd'hui qu'un déplacement pour un déplacement ne sert pas à grand-chose.
Donc Emmanuel tout ce que Macron, font les chefs d'État qui s'y rendent,
non,
finalement,
font,
c'est
non,
pour la parade
Non, ils le font en représentant soit des institutions, soit le pays qui est le leur, pour des raisons probablement importantes. Emmanuel Macron l'a dit, en ce qui concerne la France, en ce qui concerne la présidence du Conseil, un déplacement en Ukraine ne se fera que si cela permet de faire avancer concrètement un certain nombre de choses. Et il ne fera pas de déplacement pour rien. Et donc, cela est évidemment l'une des discussions importantes qu'il y aura avec le chancelier allemand aujourd'hui.
Alors donc, c'est le début du deuxième quinquennat européen d'Emmanuel Macron. En revanche, on attend toujours le début du deuxième quinquennat français pour les affaires intérieures, comme on disait autrefois. Ça va commencer quand ?
Alors d'abord, il y a un gouvernement qui travaille.
Qu'on attend aussi.
Il y a un Premier ministre, il y a des ministres qui sont à l'œuvre. Mais vous avez raison, un nouveau gouvernement est nécessaire par définition à la réélection d'un président de la République, même s'il n'est pas obligatoire, faut-il le rappeler. Mais il est nécessaire, ne serait-ce que pour lancer cette bataille des législatives qui nous attend pour les prochaines semaines. Et donc, je crois que maintenant, c'est une question de jours, de semaines, mais en tout cas, effectivement, nous aurons tous la connaissance du nouveau gouvernement quand le premier mandat sera fini, c'est-à-dire à partir du 13 mai.
On n'a jamais vu, me semble-t-il, un délai aussi long entre l'élection d'un président et la nomination d'un nouveau gouvernement. Pourquoi est-ce si long précisément ? Pourquoi est-ce si difficile ?
On n'a jamais vu, me semble-t-il,
un président de la République réélu
hors cohabitation. Et donc ce cas
et ça rend la formation du gouvernement plus compliquée, ça ?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas la nécessité urgente et immédiate de changer de gouvernement avant la fin de son mandat. Et après tout, nous pouvons nous dire que c'est aussi le minimum de respect pour le gouvernement sortant que de lui laisser finir son mandat, de lui laisser finir les dossiers dont il a la tâche avant de se projeter effectivement vers les 5 nouvelles années avec de nouvelles personnalités, mais aussi avec de nouveaux périmètres ministériels et avec de nouveaux caps de politique publique à fixer.
On dit que le président de la République aura déjà essuyé plusieurs refus pour le poste de Premier ministre, notamment auprès d'un certain nombre de femmes. Est-ce que c'est de l'intox ?
En général, ceux qui disent qu'ils refusent sont soit ceux à qui on ne l'a pas proposé, soit ceux qui ont envie de se faire un nom sur la séquence en préparation des élections législatives. Comme on dit souvent dans ces cas de figure, Frédéric Rivière, et vous le savez mieux que quiconque, que ceux qui savent ne disent pas, ceux qui disent ne savent pas.
La coalition de gauche créée autour de Jean-Luc Mélenchon pourrait-elle réduire votre majorité à l'Assemblée nationale, voire vous en priver ?
Je ne le crois pas, mais c'est aux électeurs d'en décider. Nous mènerons une bataille pour la majorité présidentielle importante, puisque c'est celle qui va permettre au président de la République d'avoir un gouvernement et une majorité parlementaire lui permettant de mener les réformes essentielles pour l'avenir de notre pays. Je crois que l'Union de la gauche, d'abord, elle est de façade. Nous le voyons bien ce matin avec Fabien Roussel, qui a déjà demandé de changer un candidat de la France insoumise dans le Rhône, parce qu'il considère que ça ne lui convient pas. On voit bien que les différences et les divergences de fond sont beaucoup plus importantes que ce qui les rassemble. Le nucléaire, la position à adopter vis-à-vis de Vladimir Poutine, je ne vois pas comment nous pouvons appeler cela une union. C'est une union de façade qui ne tiendra pas longtemps.
Merci Laurent Saint-Martin. Bonne journée.